Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Ravi de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Je salue particulièrement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus attendre, voici le programme de notre émission. Bamako qui recadre le ministre français de la Défense, un premier convoi militaire français parti du Niger est arrivé au Tchad, et l'Occident qui a perdu la bataille dans les pays du Sud par rapport à l'Ukraine et Israël. La France va réduire le nombre de ses instructeurs militaires au Sénégal en 2024. Un chroniqueur béninois réagira à cette décision. Le forum international Ceinture et Route s'est achevé à Pékin. Un expert camerounais fera le bilan de cet événement. L'Union européenne prépare un 12e paquet de sanctions contre la Russie. Un eurodéputé fera le point sur les répercussions négatives de ces mesures pour le continent africain. La précipitation des Occidentaux et plus particulièrement de Washington dans leur soutien à Israël a envoyé un mauvais signal aux pays du Sud global selon le Financial Times. Des diplomates et des responsables occidentaux ont déclaré à la publication britannique que les pays émergents, poussés à soutenir l'Ukraine, voient mal pourquoi Moscou serait accusé de violer le droit international quand dans le même temps, on donne carte blanche à Tel Aviv pour bombarder la bande de Gaza. Le média ajoute que de nombreux pays arabes estiment que les États-Unis et les autres puissances occidentales n'ont jamais demandé des comptes à Israël pour le traitement infligé aux Palestiniens, ni accordé suffisamment d'attention aux conflits brutaux en Syrie, au Yémen et en Libye. Dans le camp occidental, des critiques ont fusé contre le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui se sont empressés de se rendre en Israël. Mieux, von der Leyen s'est rendue dans l'État hébreu sans mandat des 27 États membres, ce qui a agacé du monde selon le Financial Times. Jabdehoub Schaeffer, ancien secrétaire général de l'Alliance Atlantique, a déclaré au quotidien que ce double discours sur Gaza et l'Ukraine pourrait avoir des conséquences néfastes sur des institutions comme l'OTAN, l'UE et le G7 et leur faire perdre leur crédibilité sur les grandes questions mondiales. La publication a ajouté que les pays du Sud pourraient faire entendre leur voix à l'ONU en soutenant les prochaines résolutions proposées par la Russie sur le conflit israélo-palestinien, tout comme sur l'aide à l'Ukraine. Les autorités maliennes de la transition n'ont pas apprécié les propos du ministre français de la Défense Sébastien Lecornu prononcés au Sénat le 11 octobre dernier. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a condamné dans un communiqué les propos de M. Lecornu ayant rappelé aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du pays ne se déterminait plus à Paris. Selon Bamako, les propos du ministre français sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En outre, le gouvernement malien a reproché à Paris de ne pas ménager ses efforts en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et en place d'un retrait ordonné, coordonné et sécurisé actuellement en cours. Pour rappel, Sébastien Lecornu avait alerté le 11 octobre dernier les sénateurs d'un risque de partition du Mali. Il avait en outre déploré le choix malien de s'être passé des services de l'armée française. Les premiers soldats français ayant plié bagages du Niger sont arrivés au Tchad. Le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major de la France, a indiqué que le convoi militaire est sorti du Niger en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes. Celui-ci est bien arrivé sans encombre particulière à N'Djamena, la capitale tchadienne, après 10 jours de trajet. Le porte-parole a ajouté que des rotations aériennes du Tchad vers la France seront organisées dans les prochains jours. Selon le colonel Godillère, la moitié des bases avancées à Walam et Ayourou dans la zone des trois frontières avec le Burkina Faso et le Mali ont été vidées. Pour rappel, suite à la prise du pouvoir par des militaires au Niger, l'armée française a été priée de quitter le pays. Ce sont au total 1400 hommes qui doivent partir. Parmi eux, 400 soldats stationnés dans des bases situées dans la zone des trois frontières plient bagages en premier. Ils seront suivis par leurs frères d'armes stationnés dans la base de Niamey. Dans un communiqué, le Tchad a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour faciliter le retour des troupes françaises en Europe. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le Niger n'est pas le seul pays d'Afrique où la France retire ses militaires. Selon un média français, Paris va réduire, de sa propre initiative, la présence de ses instructeurs au Sénégal. Le nombre de ces instructeurs, qui ont pour mission de former les militaires sénégalais, ainsi que ceux de la CDAO, passera de 500 à 260 d'ici à l'été 2024. Cette réduction des effectifs est loin d'être insignifiante. La coopération franco-sénégalaise dans ce domaine dure depuis plus de 12 ans. Conséquence, les formations dispensées seront davantage co-gérées avec l'armée sénégalaise. Pour rappel, les soldats français sont déjà poussés vers la sortie au Mali et au Burkina Faso. La faute notamment à l'échec de l'opération Barkhane. Le Mali avait en 2022 déposé une plainte à l'ONU en accusant Paris d'avoir fourni des renseignements et des armes aux groupes terroristes. Au micro de Spoutnik Afrique, Modeste Dossou, chroniqueur béninois spécialisé dans les questions de défense et de sécurité, a réagi à cette décision de Paris. Écoutons-le tout de suite. Selon des médias français, Paris a décidé de rappeler une partie de ses instructeurs au Sénégal d'ici le milieu de 2024. Pourquoi la France a pris cette décision de son propre chef ?
Le fait pour Paris de réduire ses instructeurs au Sénégal pourrait tout de suite laisser penser qu'il s'agit d'une décision stratégique au vu de ce qui se passe au Sahel. C'est vrai, le Sahel n'y est probablement pas étranger. Néanmoins, il faut aussi dire que Paris veut concentrer ses forces plutôt dans le Pacifique. Aussi, il faut reconnaître que la présence française au Sénégal n'a plus vraiment lieu d'être puisque le Sénégal est relativement en paix. Il n'est pas très en proie à des attaques, même au niveau des rebelles dans le Casamance. Je pense qu'il y a une certaine stabilité déjà. L'armée maîtrise suffisamment les choses. Du coup, la présence française ne devrait plus être forte. Donc, je pense que c'est dans cette idée stratégique que Paris décide de réduire ses instructeurs français pour mieux se concentrer sur d'autres fronts.
En février 2023, Emmanuel Macron avait promis une diminution visible des effectifs militaires en Afrique et parlé de bases co-gérées avec les pays africains. Toutefois, la proportion des troupes rappelées, ni son échéance, ne sont toujours pas précisées. Pourquoi c'est au Sénégal que cette réduction s'effectuera en premier ? Et quel pays africain pourrait suivre selon vous ?
On ne sait pas exactement si la réduction des forces françaises au Sénégal rentre dans le cadre de la décision de réduire considérablement la présence militaire française en Afrique. Néanmoins, c'est déjà un début pour cette décision française qui est en train d'être suivie par des actes concrets. Et comme par exemple au Niger, je crois que le Sénégal n'est peut-être pas le premier pays, on peut le dire comme ça, n'est peut-être pas le premier pays par qui cette réduction commence, vu que l'annonce a été faite avant le départ des forces françaises du Niger. Du coup, on peut déjà tout de suite dire que c'est le Niger qui a été l'élément déclencheur de cette décision. Et donc, le Niger est peut-être le premier pays. C'est vrai que la France y quitte, pas forcément de bon gré, mais bon, voilà, elle quitte. Du coup, le Sénégal pourrait être le second pays. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire, vu que aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont quand même relativement en paix. Du coup, la Côte d'Ivoire pourrait être l'autre pays où les forces françaises pourraient être réduites. Ça, c'est à venir et on attend aussi des déclarations officielles des autorités françaises pour savoir un peu ce qu'il en est.
La France est actuellement en train de retirer ses soldats du Niger. Comment la décision de quitter le Sénégal va affecter encore davantage l'influence française en Afrique ?
C'est vrai qu'on pense que la décision de la France de réduire sa présence au Sénégal et peut-être ailleurs pourrait affecter l'influence de Paris en Afrique, mais il ne faut pas oublier, les forces françaises en Afrique ne sont pas le socle de l'influence de la France en Afrique, c'est plutôt la monnaie africaine, le franc CFA, c'est ça le socle de l'influence. Après le reste, il y a toute une stratégie administrative qu'on oublie. La présence militaire n'est que la phase, la version, ou plutôt la face visible de l'iceberg. Il y a une grosse influence de la France sur le continent africain, surtout sur les pays subsahariens anciennement colonisés par la France et qu'on ne peut pas oublier. Du coup, l'influence française en Afrique reste et demeure assez solide, même si avec les départs des forces françaises, bon, on sent un peu des fléchissements et tout, mais attention, la France, elle est stratégique dans cette décision. C'est vrai que actuellement Emmanuel Macron a une politique étrangère, surtout une politique africaine plutôt assez biaisée. Sa politique africaine a été mal élaborée, très mal élaborée. Il pensait que avec un ton dur, un ton ferme, on allait les gens, les Africains allaient céder et tout, mais ça n'a fait que éloigner l'Afrique de la France. Du coup, l'influence de la politique militaire va être réduite. Mais attention, l'influence de la France en Afrique subsaharienne, surtout dans les pays utilisant le franc CFA, elle est encore très forte.
En parlant des changements de format de la présence militaire française en Afrique, Paris évoque très rarement sa base à Djibouti. Pourquoi cette base reste importante aux yeux de Paris, selon vous?
Alors, parlons de la base française à Djibouti. C'est fort de 1500 hommes. Je crois que c'est le plus grand contingent de militaires français en Afrique aujourd'hui. Et les militaires français sont présents dans le pays depuis l'indépendance de cet État. Du coup, je ne pense pas que les réductions d'effectifs concerneraient aussi Djibouti. Même le cas du Tchad, je ne pense pas que les réductions d'effectifs concerneraient aussi le Tchad, parce que le Tchad constitue aujourd'hui le seul point d'entrée des forces françaises au Sahel, le seul point de contrôle des forces françaises de la France sur le Sahel aujourd'hui, jusqu'à ce qu'éventuellement il y ait d'autres contrats militaires, et on ne sait jamais. Néanmoins, le cadre est très important aujourd'hui pour Paris en ce qui concerne le Sahel. Donc, je ne pense pas qu'il pourrait y avoir une réduction d'hommes dans ce pays et à Djibouti aussi. Néanmoins, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon pourraient connaître quelques réductions d'hommes. Et voilà, la France n'est pas en perte de vitesse forcément en Afrique. Mais militairement, elle régresse. Ses bases militaires sont suffisamment réduites.
C'était Modeste Dossou, chroniqueur béninois spécialisé dans les questions de défense et de sécurité pour Spoutnik Afrique. Il a réagi à la réduction du nombre d'instructeurs français au Sénégal d'ici l'année 2024. Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Le forum international Ceinture et Route s'est achevé à Pékin. Des représentants de plus de 130 pays et de 30 organisations internationales ont participé à la troisième édition de cet événement qui célébrait son 10e anniversaire. Des accords et des protocoles d'accord ont été signés entre les pays participants. Vladimir Poutine avait fait le déplacement dans l'Empire du Milieu pour rencontrer son homologue Xi Jinping. Nous en avions parlé dans une précédente émission. Aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur les répercussions de cet événement pour le continent africain. Et pour faire le bilan du forum Ceinture et Route, Spoutnik Afrique s'est entretenu avec le professeur Nkolo Foé, membre du comité consultatif de l'Institut Chine-Afrique, membre titulaire de l'Institut international de philosophie. Écoutons-le tout de suite.
C'est notre plaisir de vous avoir au micro de Spoutnik Afrique. Et aujourd'hui, nous voudrions parler de l'initiative La Ceinture et la Route et de la troisième édition du forum Ceinture et Route qui vient de se tenir en Chine, à Pékin. À cet événement, la Russie a encore une fois affiché son rapprochement avec Pékin, le volume des échanges entre les deux pays ayant franchi la barre de 200 milliards de dollars en un an. Comment voyez-vous ce rapprochement dans un contexte de monde multipolaire et que signifie ce rapprochement pour l'Afrique selon vous?
Alors, il s'agit là d'une question extrêmement importante parce que Vladimir Poutine et Xi Jinping ne font pas mystère de l'excellence de leurs liens personnels et de leur profonde amitié. Au cours des dernières années, les deux dirigeants se sont rencontrés à peu près 42 fois. C'est le signe que le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération signé en 2001 porte ses fruits. Les deux pays partagent une longue frontière, je crois, de 4250 kilomètres. Et chaque jour qui passe voit les deux économies s'intégrer, notamment à travers Vladivostok et la province chinoise de Heilongjiang. La suppression du visa en 2001 pour les résidents des régions frontalières sino-russes a, je crois, facilité les échanges. Et pour prendre un exemple, vous savez qu'il existe désormais une entente entre la société russe United Oil and Gas Chemical Company et la société chinoise Swanwan Industrial Development pour construire un complexe pétrolier de transbordement d'un pont ferroviaire reliant Nice, Nelé, Niskoï dans l'oblast autonome de Juif à la ville de chinoise de Tongjiang. L'hostilité de l'Ouest européen à l'égard de la Russie, mais aussi de la Chine, a sans doute accru l'intérêt pour le développement de l'Orient russe et du Nord chinois. Il est de plus en plus clair que la Russie tourne le dos à l'Europe occidentale, contraignant cette dernière, c'est-à-dire l'Europe, en quelque sorte à l'isolement par rapport au grand bloc géographique, économique et civilisationnel eurasien. Il suffit de bien regarder la carte du continent eurasiatique pour se rendre compte que, au lieu d'être le centre du monde, l'Europe occidentale n'apparaît plus que comme une presqu'île de la gigantesque masse continentale qui va, bien sûr, de l'Atlantique au Pacifique. Et je dirais encore que, en administrant une sévère correction au rejeton de Stepan Bandera en Ukraine et à leur sponsor de l'OTAN, la Russie n'a donc fait qu'accélérer le processus de périphérisation de l'Ouest européen, parce que en fait, c'est de cela qu'il s'agit. S'agissant de l'Afrique, bon, il faut bien noter que il y a des événements extrêmement importants qui se déroulent sur le continent africain actuellement. Il y a par exemple un processus d'expulsion des soldats européens, notamment la fermeture des bases militaires. Je crois que le rapprochement entre la Chine et la Russie a facilité ce processus qui était demandé, vous le savez sans doute très bien, depuis des décennies. Parce que les bases militaires sur le continent, notamment dans le Sahel, sont quand même l'héritage de la colonisation.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Cette année, cette initiative qui est la ceinture et la route fête son 10e anniversaire. Quel bilan peut-on tirer de cette initiative pour l'Afrique? Et pouvez-vous peut-être donner des exemples de projets sur le continent africain qui se sont concrétisés en ce délai?
Pour comprendre l'importance des routes de la soie pour les pays en développement en général et les pays africains en particulier, je me permettrai d'abord de citer deux témoignages illustratifs. Il y a d'abord un témoignage de James Kenneth Galbraith, un économiste américain très connu, qui rapporte le témoignage ci-après recueilli dans un pays du tiers-monde, sans doute africain. Alors, il disait ceci. Lorsque nous nous engageons avec les Chinois, nous obtenons un aéroport. Et lorsque nous discutons avec les Américains, nous recevons une conférence. Quand les Américains ne nous indiquent pas la voie du FMI. Maintenant, le deuxième témoignage, c'est celui de l'ancien président du Sénégal, qui disait ceci au sommet de l'Union africaine, je le cite, « Quand je veux construire 5 km de route avec la Banque mondiale ou les autres institutions financières internationales, il me faut 5 ans. Avec la Chine, c'est quelques jours. Je dis oui ou je dis non. Ils viennent, on signe au papier et ils sont sur place. » Alors, cela veut dire que la Chine, actuellement, est le principal investisseur dans le secteur des énergies vertes, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur dans le secteur du commerce, est très loin devant les pays européens comme la France et l'Italie. Selon un rapport publié, je crois, par l'Agence internationale de l'énergie, les entreprises chinoises construisent actuellement 30% des nouvelles capacités électriques en Afrique subsaharienne, soit plus de 200 projets entre 2010 et 2020. Et si l'on met à part les investissements réalisés dans un pays comme l'Afrique du Sud, eh bien, l'on notera que c'est environ 46% des nouvelles capacités électriques en Afrique subsaharienne qui sont construites par des entreprises chinoises. Dans tout cela, dans un pays comme le Cameroun, eh bien, une large part est faite au barrage. Maintenant, nous allons aussi observer que la Chine, à travers les routes de la soie, s'est beaucoup impliqué dans la construction des routes. Il y a par exemple l'autoroute qui relie Yaoundé, la capitale du Cameroun, à la ville côtière de Douala. Il y a le grand port industrialisé, le grand complexe industrialisé portuaire de Kribi. Il s'agit là des investissements extrêmement importants. Et au cours des dernières semaines, le Fonds des routes de la soie a signé un important mémorandum d'entente avec le gouvernement du Cameroun. Et certaines régions du pays ont déjà signé une entente avec le Fonds des routes de la soie. Voilà quelques exemples que je peux donner. Je pourrais même ajouter, si on se déplace vers l'Afrique de l'Ouest, les importants investissements faits, par exemple, en Éthiopie. Et vous savez que Addis Abeba est actuellement construit par la Chine. Alors, il y a le Kenya, n'est-ce pas, qui a bénéficié de gros investissements, notamment l'important chemin de fer qui relie Nairobi à Mombasa. Et il s'agit là des projets extrêmement importants. Alors, je citerai également la ligne ferroviaire Addis Abeba Djibouti qui fait, comment dirais-je, la fierté de cette, des gens de cette région-là.
Merci beaucoup. Et si on parle, du futur, à l'avenir, comment cette initiative pourrait-elle profiter aux pays africains sur le plan socio-économique et aussi sécuritaire?
Là, il s'agit vraiment d'un aspect extrêmement important. Parce que ce que nous avons constaté avec les routes de la soie, c'est un processus progressif d'unification du continent. Parce que vous savez que le continent a été balkanisé et relier les régions à l'intérieur des pays ou relier les pays entre eux s'avère extrêmement difficile. Alors maintenant, l'unification du continent par les routes, par les ports, par les aéroports, a une incidence directe sur le développement économique, mais également sur le démantèlement des zones d'influence. Vous savez que l'Afrique a été taillée en zones d'influence depuis l'époque coloniale. Et parce que ces zones d'influence remontent à la conférence de Berlin, lorsqu'il a été question d'assurer le partage du continent entre les différentes puissances coloniales. Or, l'unification du continent contribue précisément à l'unification du continent. Parce que là maintenant, nous observons une certaine fluidité entre les différentes parties du continent, les parties anglophones du pays, les parties francophones. Bon, on va jusqu'à à l'Afrique du Nord. Donc, ce processus-là est bien engagé. Ce processus ne peut plus s'arrêter. Mais nous observons, il y a le chercheur russe Andrew Korutko et moi-même qui expliquons la montée et l'endémicité des guerres hybrides en Afrique par la volonté des puissances occidentales de maintenir ces zones d'influence. Par exemple, Andrew Korutko a établi des correspondances troublantes entre l'intégration de l'Afrique dans les plans des routes de la soie et des principales zones d'insécurité sur le continent, les foyers de terrorisme, les régions de séparatisme qui suivent comme par hasard le tracé du projet de route de la soie, et des études empiriques plus poussées devraient peut-être être consacrées à cette question. Mais je constate par exemple que depuis la présence russe en République centrafricaine, eh bien, la question de l'insécurité ne se pose plus dans les mêmes termes qu'il y a à peu près 5 ans, parce que la Russie a puissamment aidé la République centrafricaine, non seulement à unifier le territoire, mais le territoire qui était d'ailleurs contrôlé par une multitude de rébellions. Mais également, la paix est revenue et la République centrafricaine a amorcé, avec l'aide de la Russie et de la Chine, un processus dynamique de développement.
Plusieurs leaders africains se sont rendus cette année en Chine pour participer à ce forum. Il s'agit notamment des dirigeants de la République du Congo, de l'Éthiopie, du Kenya et du Nigeria. Pourquoi, selon vous, ces dirigeants sont présents à cet événement?
Je ne suis pas dans le secret des yeux pour répondre à cette question. Je me contente simplement de quelques hypothèses. Bon, je note d'abord que la présence du Congo, de l'Éthiopie, du Nigeria et même du Kenya en tant qu'État ami de la Chine ne devrait vraiment pas surprendre. Parce qu'il s'agit là des pays où la Chine a investi au cours des dernières années. Mais s'il y a une surprise s'agissant des chefs d'État, je constate que William Ruto, le président du Kenya, était présent en Chine. Alors vous savez que William Ruto a la réputation d'être un pro-occidental incurable. Les propos de William Ruto sur les routes de la soie ont été extrêmement positifs, à la surprise de tout le monde. Par exemple, le président kényan a salué le chemin de fer à voie standard d'une longueur d'environ 600 kilomètres. Il a également salué les programmes d'infrastructure routière d'une longueur totale de 2000 kilomètres. C'est lui-même qui donne ces chiffres, n'est-ce pas, dans l'entretien qu'il a accordé à la presse chinoise. Le président Ruto a souligné que la politique économique du Kenya était en phase avec l'initiative des routes de la soie, ce qui d'ailleurs a constitué pour moi une grande surprise. Le président Ruto considère que les routes de la soie sont un éclatant succès pour le Kenya. Parce que grâce à cette initiative, a-t-il dit, le pays a construit le tout premier chemin de fer à voie standard. Vous savez que le continent africain a été exclu, n'est-ce pas, du bénéfice des chemins de fer à voie standard, parce qu'il s'est agi là d'une décision prise depuis l'époque coloniale. Or, la Chine et l'Union africaine ont signé un important mémorandum pour permettre à l'Afrique d'accéder enfin au chemin de fer à voie standard. Il s'agit là vraiment d'une grande nouveauté. Et c'est le Kenya et puis Djibouti ont été parmi les tout premiers à pouvoir bénéficier de ce type d'infrastructure. On attendait le président kényan sur la question sensible du piège de la dette. Sur cette question-là, William Ruto n'a vraiment pas déçu, parce que il a catégoriquement rejeté ces allégations évoquées généralement par les médias et les responsables politiques occidentaux. Je pense qu'il y a beaucoup de manipulation sur la question du piège de la dette. Et j'ai été très heureux, n'est-ce pas, que le président kényan répondent fermement, n'est-ce pas, à cette question-là. Parce que ce que dit William Ruto est en accord avec nos propres chiffres, les chiffres qui circulent d'ailleurs et que tout le monde peut consulter, sauf, n'est-ce pas, les médias occidentaux et les dirigeants, n'est-ce pas, de cette partie du monde. Pourquoi ? Parce que le recoupement de plusieurs sources indique qu'en mars 2003, c'est-à-dire mars de cette année, le stock de la dette extérieure du Kenya s'est chiffré à 36,66 milliards de dollars. Et la dette était due essentiellement à des prêteurs multilatéraux, soit 46,3%, et à des prêteurs bilatéraux, soit 24,7%. Or, la part des entités chinoises était seulement de 6,31 milliards de dollars. Mais la plus grande partie de la dette du Kenya est due au Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et cela, on ne le souligne pas en Occident.
Parlons maintenant un peu de la dimension plus large, de la dimension géopolitique. Il y a 10 ans, cette initiative qui est la ceinture et la route a été lancé dans un contexte géopolitique différent. Le but était et est toujours de créer un nouveau système mondial d'interdépendance économique, politique et sécuritaire alternative. Ça veut dire alternative au système occidental. Selon vous, aujourd'hui, peut-on dire que la ceinture et la route s'est imposée comme un instrument de promotion d'un monde multipolaire, dont notamment parle si souvent Vladimir Poutine et Xi Jinping?
Absolument, absolument. Vous savez que les routes de la soie ont fait prendre conscience à l'humanité qu'un monde multipolaire était possible. Et il suffit de revisiter la base philosophique de l'initiative La Ceinture et la Route pour s'en rendre compte. Je voulais simplement prendre un exemple. La question des buts géopolitiques de l'initiative Ceinture et Route n'a cessé de se poser depuis son lancement en 2013. Et cette question cruciale a retenu l'attention de nombreux penseurs. Je pense notamment à Christiane Bière de l'Institut Schiller, qui a présenté les routes de la soie comme une alternative crédible à la géopolitique actuelle. Et dans le contexte qui nous intéresse, je pense qu'il est important vraiment de revisiter la notion de géopolitique. Parce que la géopolitique implique, si il faut simplifier les choses, la volonté d'expansion et de domination universelle. C'est ça la géopolitique. Bon, et on a appliqué ce concept à la Chine. Or, justement, Christine Bière et moi-même avons réfuté cette assertion en montrant que la nouvelle route de la soie sont l'antithèse par excellence de la géopolitique. Pourquoi ? Parce que le projet chinois a pour finalité de mettre fin à la pensée géopolitique, telle que les concepteurs de cette notion eux-mêmes l'avaient établi, parce que la géopolitique renvoie aux relations entre nations ou entre États, et ces relations, n'est-ce pas, se réduisent simplement à la loi du pouvoir. Parce que le concept de géopolitique renvoie justement aux relations entre États, mais dans la perspective, n'est-ce pas, de la loi du plus fort. Et vous savez aussi que dès le 19e siècle, la géopolitique recouvre avant tout des enjeux de pouvoir sur les territoires. Mais nous savons aussi que le concept de géopolitique renvoie à la politique d'influence des puissances étatiques. Donc, cela est très important. Or, nous constatons avec la Chine que les routes de la soie ont pris une direction tout à fait opposée. Parce que le type de partenariat que les routes de la soie impliquent exige justement sur un partenariat gagnant-gagnant. Et nous notons cela depuis quelque temps déjà, n'est-ce pas, dans les décisions du président Xi Jinping, dans les déclarations également de Vladimir Poutine, n'est-ce pas, la ferme volonté d'en finir avec la loi du plus fort dans les relations internationales. Et je pense que il serait vraiment intéressant de mettre côte à côte les déclarations de Vladimir Poutine, celles de Xi Jinping ou aussi les déclarations du ministre des Affaires étrangères du Russie, Sergei Lavrov, pour se rendre compte que une croisade a été lancée contre la géopolitique telle que les pays occidentaux ont cherché à l'imposer.
Concernant les déclarations, Vladimir Poutine a récemment nommé les 6 principes que la Russie vise dans les relations internationales. Pour rappel, il s'agit d'un monde ouvert et interconnecté, de la diversité, de la représentativité maximale, de la sécurité universelle et de la justice pour tous et de l'équité. Selon vous, peut-on dire que l'initiative, la ceinture et la route correspond à ces principes énumérés par le président russe?
Absolument. Je crois qu'il y a une parfaite convergence des vues sur ces questions essentielles entre non seulement le président russe et le président chinois, mais entre ces leaders, ces deux grands leaders du sud global et la plupart des grandes nations du sud. Alors, il suffit par exemple de lire le livre blanc sur une communauté mondiale de destin qui a été publié le mois dernier par la Chine pour noter la convergence des vues entre la Russie et la Chine sur la nécessité d'un monde ouvert et interconnecté, sur la question de la diversité des civilisations, sur la question de la représentativité maximale de la sécurité universelle, de la justice pour tous et de l'équité. Le livre blanc sur une communauté mondiale de destin a souligné, n'est-ce pas, ces derniers temps, trois points essentiels qui résument en fait les vues du président chinois Xi Jinping. Il s'agit là, je viens de le dire, d'une aspiration commune du sud global. Il s'agit pour la Chine comme pour la Russie de travailler avec l'ensemble de la communauté internationale pour faire respecter l'esprit et la charte des Nations Unies, pour s'adapter au changement profond du paysage international par la voie de la solidarité. Il s'agit, n'est-ce pas, d'inviter le monde entier, n'est-ce pas, à aborder les risques et les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels avec un état d'esprit non pas de confrontation, mais plutôt de dialogue. Et la Chine et la Russie, n'est-ce pas, soulignent l'importance du partenariat. Et en cela, ces pays ont raison de s'opposer à la politique des blocs, à la politique, n'est-ce pas, du jeu à somme nulle. Il s'agit surtout de privilégier le dialogue plutôt que la confrontation, le partenariat plutôt que la construction des alliances et des blocs antagonistes.
Toute dernière question pour aujourd'hui. Vous avez un peu déjà touché le thème de l'Europe, mais encore une fois, ce serait intéressant d'entendre votre opinion. Les dirigeants occidentaux n'ont pas participé au forum la ceinture et la route cette année. Parmi les pays de l'Union européenne, seule la Hongrie était représentée, bien que l'Europe soit une partie importante de de cette initiative, parce que les voies commerciales lient déjà la Chine aussi à l'Europe et pas seulement aux pays du sud global. Selon vous, pourquoi une telle position des chefs d'État européens maintenant? Et comment cette, on peut dire, non-participation à l'initiative peut-elle affecter l'avenir du continent européen?
Il suffit de lire le dernier numéro de Foreign Affairs, le numéro 2 du mois de septembre-octobre 2023, pour comprendre l'hostilité de l'Occident à l'égard des routes de la soie. Ce numéro de Foreign Affairs contient un important article rédigé par Michael Bennon et Francis Fukuyama, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. Mm-hmm. Alors, le titre de l'article à lui seul révèle les réelles intentions des pays capitalistes. Eh bien, l'article a pour titre, j'ai le titre ici devant moi, eh bien, China's route to win, the real toll of Beijing's Belt and Road. Je traduis ça rapidement en français. La route de la soie vers la ruine. Le véritable bilan de la ceinture et de la route. Alors, je dois dire immédiatement que la dogmatique libérale, ou même néolibérale, est au cœur de la démarche de Fukuyama et de son collègue Bennon, tout comme les arguments et les rhétoriques utilisées. Dans les routes de la soie, il dénonce les prêts accordés par les banques publiques chinoises, par l'intermédiaire d'entreprises publiques chinoises aux entreprises publiques des pays emprunteurs. Et ces personnalités publiques américaines filtrissent les options de financement qui, disent-ils, manquent de transparence, alimentent la corruption, la mauvaise gouvernance, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est que je vous rappelle que, au cours des deux dernières années, l'Occident collectif a pris deux importantes mesures pour contrer les routes de la soie. Par exemple, à l'occasion du sommet du G7 de 2021, eh bien, le président américain Joe Biden avait lancé l'initiative Build Back Better World, c'est-à-dire reconstruire le monde en mieux. Et cette initiative a été rapidement suivie par l'initiative européenne Global Gateway. Et le but de ces initiatives a été clairement exprimé parce qu'il s'agissait de répondre à l'influence croissante de la Chine sur la scène internationale un an après ces deux initiatives. Un constat d'échec a été fait. Par exemple, les États-Unis et le G7 se sont finalement résignés à lancer une nouvelle initiative il y a, je crois, un an et demi. Et cette initiative, ils l'ont appelée le partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondiaux. Dans les faits, ce partenariat est une version reconditionnée du Build Back Better World et marque un net recul des ambitions dans la mesure où les financements ont notoirement baissé. Nous constatons également, et je termine vraiment par là, que l'Union européenne, s'agissant du monde francophone, de l'Afrique francophone, l'Union européenne a multiplié des offensives au cours des derniers mois pour vendre le Global Gateway. Je suis au Cameroun et je rappelle qu'il y a quelques mois, une mission de l'Union européenne à ces journées ici au Cameroun comme dans d'autres pays africains pour essayer de promouvoir le Global Gateway. Alors, j'insiste sur ces questions pour vous dire que la présence de l'Europe en Chine aurait été étonnante malgré le fait que, eh bien, l'Europe bénéficie beaucoup des retombées des routes de la soie. Mais nous notons quand même aussi que il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne me rappelle plus exactement, eh bien, l'un des rares pays européens qui était membre des routes de la soie, à savoir l'Italie, a annoncé son retrait de cette initiative sous la pression de l'Union européenne et des États-Unis. Donc, aller en Chine aurait constitué pour les pays occidentaux, en tout cas les pays européens, une contradiction magistrale, compte tenu, n'est-ce pas, de ces différentes initiatives que je viens de citer.
Merci beaucoup, mais juste une toute petite question, si vous permettez. Peut-être à moyen et même à long terme. Quels sont vos pronostics? Cette compétition, qui va la remporter? Est-ce que l'Europe vraiment est capable de tenir longtemps dans ce combat, on dirait?
Moi, je vois vraiment pas comment l'Europe va tenir dans ce combat. L'Est, c'est le nouveau centre du monde. Et vous savez que les BRICS, sur le plan démographique, constituent quand même la majorité mondiale. Et l'essentiel des ressources stratégiques se trouve non pas en Europe. Et vous savez que s'agissant du gaz, le pétrole aussi, l'Europe est dépendante actuellement du gaz de schiste américain. Elle est dépendante, n'est-ce pas, du gaz africain. Vous savez que lorsque les sanctions ont été prises contre la Russie, eh bien, les dirigeants occidentaux et les journalistes des médias mainstream annonçaient l'effondrement, n'est-ce pas, de la Russie en quelques mois. Cela ne s'est pas produit. Au contraire, la Russie a amélioré pratiquement son économie. Et qui souffre des sanctions qui ont été prises actuellement? Nous connaissons très bien la situation d'un pays comme l'Allemagne, qui est maintenant en pleine récession. Or, l'Allemagne, qui était quand même l'un des moteurs de l'économie européenne. La France, extrêmement en difficulté. Maintenant, la Russie et les BRICS ont rassemblé autour d'eux l'immense majorité des peuples. On voit actuellement les pressions que l'Occident exerce sur la Chine pour intimider notamment les dirigeants africains, leur demandant de couper les relations avec la Chine. Or, vous savez très bien que au cours des derniers mois, la grande majorité des pays africains ont décidé de faire confiance à la Russie. Même un pays du précaré francophone comme le Cameroun, vous savez que le président Biya, n'est-ce pas, à l'étonnement de beaucoup de gens, les gens qui ne connaissent pas les coulisses de la diplomatie, eh bien, lui-même s'est déplacé. Il est venu à Russie pour marquer sa présence et son amitié, n'est-ce pas, avec la Russie. Et au cours des derniers, je crois, il y a quelques jours, eh bien, l'équipe nationale du Cameroun est venue jouer à Moscou pour marquer la volonté du Cameroun, mais également la volonté de l'Afrique, de travailler avec la Russie dans le cadre, bien sûr, d'un monde multipolaire. Mais en fait, je termine par là, je constate que actuellement c'est l'Occident qui est en train de se marginaliser. C'est l'Europe occidentale qui est en train de se périphériser, parce que l'Europe, il faut bien le signaler, c'est une presqu'île ou une péninsule, un appendice du grand bloc eurasien. Et vous prenez une carte et vous allez vous rendre compte que l'Europe occidentale, c'est pas grand-chose par rapport, n'est-ce pas, au continent asiatique, avec notamment les nouveaux pôles, nouveaux centres du monde qui sont en train de se structurer autour de la Chine et autour de la Russie.
C'était le professeur N'Kolo Foué, membre du comité consultatif de l'Institut Chine-Afrique, membre titulaire de l'Institut international de philosophie pour Spoutnik Afrique. Il a fait le bilan du forum Ceinture et Route qui vient de s'achever à Pékin et exposé les retombées de cet événement pour le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Bienvenue, si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM à Bamako. Le 12e paquet de sanctions contre la Russie fait toujours l'objet de discussions au sein de la Commission européenne. Parmi les restrictions annoncées, on trouve l'interdiction du commerce de diamants longtemps bloqué par la Belgique. Enfin, de nouvelles mesures sont prévues pour lutter contre le contournement de ces restrictions par la Russie via des pays tiers. Toutefois, ces mesures ne font pas l'unanimité sur les bancs du Parlement européen. C'est le cas de l'eurodéputé français Thierry Mariani, qui a dénoncé l'inefficacité des sanctions contre la Russie, mais surtout l'effet boomerang qu'elles ont. Il a affirmé que celles-ci ont permis d'augmenter le nombre d'opposants à l'Union européenne dans le monde et que ce processus se poursuivrait. Au micro du correspondant de Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani nous a donné des précisions sur ses récentes prises de position au Parlement européen. Écoutons-le tout de suite.
Au Parlement européen, vous avez déclaré que les sanctions européennes ne faisaient que multiplier les problèmes dans plusieurs régions du monde, dont l'Afrique. Quelles sont les répercussions négatives des sanctions anti-russes sur le continent africain, selon vous ?
Vous savez, d'abord, les sanctions décidées par l'Union européenne sont problématiques pour tous les peuples européens qui souffrent de l'inflation. On le voit notamment pour les coûts de l'énergie qui explosent. Mais l'Union européenne ne fait pas que faire souffrir ses propres membres. Elle a aussi puissamment déstabilisé de nombreux marchés internationaux. Et on peut citer la déstabilisation des marchés de l'énergie que de nombreux pays africains ne peuvent pas contrer. Mais à mon avis, l'exemple le plus significatif et le plus grave, c'est celui des engrais, celui de la potasse. Car l'Union européenne a mis la potasse produite en Russie et au Bélarus sous sanction. Or, ça crée une véritable crise, une crise mondiale sur le marché des engrais. Car vous savez que Russie et Bélarus représentent ensemble à eux deux 40% de la production mondiale. 40% de la production mondiale. Cela a provoqué une explosion considérable pour les agriculteurs européens, mais j'ai envie de vous dire, ceux-ci y sont arrivés à payer. Mais pour les États africains, c'est pas le cas, parce que les agriculteurs africains sont dans une situation beaucoup plus fragile. Le prix des engrais en 3 ans a quasiment doublé. Et en réalité, pour de nombreux pays africains, cette explosion du prix des engrais suite aux sanctions sur la potasse met en danger leur alimentation. Donc, par idéologie, avec des sanctions qui n'ont pas été réfléchies, nous avons créé une défiance immense en Afrique. Et puis les Africains, quand on est avec eux, ils comprennent pas pourquoi ils devraient prendre des sanctions. J'ai rencontré l'autre jour un responsable de la République démocratique du Congo qui m'a dit « Mais vous, est-ce que vous prenez des sanctions quand on est attaqué par le Rwanda ? Vous en moquez ? Alors pourquoi vous voulez que nous, on prenne des sanctions sur une guerre en Europe qui ne concerne que les Européens ?» Voilà, l'Occident oublie toujours que ces sanctions ont un impact sur les autres pays.
Oui, tout à fait. Et moi, je ne peux qu'ajouter que récemment, le représentant de la FAO a également signalé que ces difficultés sur les marchés avec les engrais ne pourront qu'aggraver parce que à cause du conflit au Proche-Orient, voilà, Israël qui est aussi un exportateur assez important des engrais, alors voilà, la situation pourrait encore devenir encore plus grave.
Bien sûr, et si en France les produits alimentaires ont beaucoup été augmentés, les Français réalisent que dans les supermarchés les produits alimentaires ont augmenté, c'est en partie à cause de la hausse des engrais. Mais je le répète, en France, c'est difficile pour de nombreuses familles de payer cette augmentation, mais ils y arrivent. Malheureusement, en Afrique, beaucoup n'y arrivent pas et ça peut être dramatique.
Merci beaucoup. Vous avez également dénoncé l'inefficacité des sanctions contre la Russie. Selon vous, elles ont au final fait grossir les rangs des opposants de l'Union européenne dans le monde et que ce processus se poursuivrait. Mais pourquoi, finalement, Bruxelles tient tant à poursuivre cette politique anti-russe ?
Vous savez, d'abord, moi, je me souviens que quand les premières sanctions ont été prises, en France, on a un ministre de l'économie qui a dit « on va tout de suite mettre la Russie à genoux ». Malheureusement, pour le moment, personne n'est à genoux et les Français, comme le reste des Européens, en payent le prix. Les médias européens et la Commission européenne ont porté, vous le savez, Monsieur Zelensky, au pinacle. C'était un héros, je me souviens que quand il faisait sa tournée des parlements et que quasiment tout le monde se levait pour l'applaudir comme s'il avait sauvé le monde. Zelensky a fait le tour de toutes les institutions européennes pour exercer son chantage et n'a reçu que des louanges et sans aucun recul. Il donnait même les bons et les mauvais points. Telle société devait arrêter en Russie, telle autre pouvait continuer, telle société française notamment était une mauvaise société parce qu'elle continuait à travailler avec la Russie. Bref, tout était permis à M. Zelensky. Et aujourd'hui, il est très difficile pour les Européens de faire marche arrière et de déclarer qu'ils ont été bernés, même si de plus en plus ils s'en rendent compte. C'est ce que précise la Cour des comptes de l'Union européenne dans deux rapports qui sont sortis depuis le début du mois. Le premier sur le budget de l'Union européenne en 2022 affirme que notre aide à l'Ukraine met en danger la trajectoire budgétaire. C'est-à-dire en clair que de nombreuses politiques internes à l'Europe risquent d'être menacées parce que les financements pour ces politiques à l'avenir ne sont pas garantis. Mais le deuxième, qui est encore plus important, qui date du 5 octobre de ce mois, donc il y a 10 jours, rappelle que la grande corruption est toujours à l'œuvre en Ukraine et que l'Union européenne dépense l'argent des contribuables européens sans suffisamment de prudence, de contrôle, et puis surtout en trompant les Européens. On dit « Ah non, non, on ne dépense pas tout cet argent, on le prête ». Mais comme le dit la Cour des comptes, chacun sait qu'il ne sera jamais remboursé parce que l'Ukraine n'en aura pas les moyens. Et donc en réalité, l'addition va être extrêmement lourde. Les élections européennes, ce sera aussi en juin l'occasion de rappeler que nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de notre continent pour une génération en soutenant un homme dont chacun sait que finalement il n'est pas fiable et que malgré toutes ses promesses, eh bien, comme l'a dit un certain monsieur Juncker, qui était, je vous le rappelle, l'ancien président de la Commission européenne avant Madame von der Leyen, monsieur Juncker, qui n'est pas susceptible d'être accusé de sympathie pour la Russie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit lui-même, il y a quelques jours, l'Ukraine reste un pays corrompu à tous les niveaux.
Mais pourquoi finalement Bruxelles tient toujours à se mêler de ce qui se passe en dehors de l'Union européenne plutôt que maintenant de se concentrer sur la solution des problèmes à l'intérieur de l'Union?
Parce qu'il y a toujours une sorte de lyrisme dans l'Union européenne qui veut faire le bonheur du monde entier. Et puis deuxièmement, si vous regardez, je pense que l'Union européenne depuis 2004 est une Union européenne où on a désormais des intérêts divergents entre tous les pays. Vous avez des pays, je pense à ceux qui étaient les fondateurs de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, qui n'ont pas vraiment de passif avec la Russie. Et puis vous avez des pays qui étaient avant dans le bloc soviétique il y a 30 ans et qui ont ce qu'on appelle des comptes à régler avec la Russie. Donc en réalité, le drame, c'est que l'Union européenne se retrouve un peu aspirée par l'histoire de ces 30 dernières années. Regardez par exemple Monsieur Macron. Monsieur Macron, au début, il affirmait, comme tous les anciens présidents de la République française, il ne faut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et puis, sous la pression des États baltes, de la Pologne, désormais, c'est une hypothèse qu'il n'exclut pas. Voilà, le problème, c'est que l'Union européenne, c'est aussi, pour la France, une machine à détruire une politique européenne indépendante. C'était le cas avec De Gaulle, c'était le cas avec Chirac. Souvenez-vous que la France avait refusé de suivre les États-Unis dans une guerre injustifiée en Irak. Aujourd'hui, malheureusement, l'alignement sur l'Europe fait qu'on est toujours entraîné plus loin, et c'est ce que nous combattons.
Merci beaucoup. Et toute dernière question pour aujourd'hui. Allons un peu vers l'Est, si vous permettez. La troisième édition du forum La Ceinture et la Route vient de se terminer à Pékin. Et à la différence des pays du Sud global et de la Russie, les dirigeants occidentaux n'ont pas participé à cet événement cette année. Parmi les pays de l'Union européenne, seule la Hongrie était représentée. Pourquoi, selon vous, une telle position des chefs d'État européens et comment leur non-participation à l'initiative initialement chinoise peut-elle affecter l'avenir du continent européen?
Vous savez, on est dans une spirale où beaucoup de dirigeants européens ont épousé à 100% la politique étrangère américaine. Et si Washington décide de nous entraîner dans une politique de défiance, de méfiance totale avec Pékin, il faut que les grandes nations européennes, je pense notamment à la France, bien sûr, s'y opposent, car c'est pas notre intérêt. Monsieur Orban était à Pékin. Il a eu raison. L'Union européenne n'était pas représentée. Elle a eu tort. La Chine est un grand partenaire. C'est vrai que c'est par moments un concurrent, mais c'est aussi un partenaire inévitable. Et le rôle de l'Europe, c'est pas de choisir entre la Chine et les États-Unis. Le rôle de l'Europe, c'est d'avoir ces deux pays comme partenaires, même si les deux pays sont aussi des concurrents en matière économique. Choisir l'un contre l'autre, c'est une erreur fondamentale. Voilà. La différence, si vous voulez, c'est que Viktor Orban fait toujours passer les intérêts de la Hongrie en premier, parce que c'est un vrai chef d'État. La France du général de Gaulle l'aurait fait, de Jacques Chirac aussi. Celle d'Emmanuel Macron, elle brille encore par sa démission et son alignement sur Washington, et l'Europe aussi. Le problème, c'est qu'on passe notre temps en Union européenne à parler d'autonomie, de puissance, de non-alignement, mais en réalité, on n'est ni autonome, ni puissant, on est simplement aligné sur tous les sujets de politique étrangère sur Washington.
C'était Thierry Mariani, eurodéputé français pour Spoutnik Afrique. Il a présenté les conséquences des sanctions européennes contre la Russie sur les pays africains, alors que l'Union européenne prépare actuellement son 12e paquet de restrictions contre la Russie. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.